l'accordéon ou comme un refrain dans le vent sauvage. Il y avait une fille magnifique que je voyais tous les samedis. On ne faisait pas encore d'équitation, c'était réservé aux grands. Nous, on se contentait de faire du cheval. J'avoue que je n'y allais que pour voir la fille. J'avais peur des chevaux, tellement que cette leçon hebdomadaire avait pris des allures de châtiment. Chaque samedi, c'était comme si je montais à la charge. Une entreprise périlleuse, insensée, dont je redoutais l'issue. Les chevaux sont tellement imprévisibles. Parfois même, on partait en promenade. Alors il fallait passer par la forêt, loin des villages, traverser des torrents gonflés par les pluies et emprunter de dangereux défilés. En comparaison, le travail en manège me semblait une douce pénitence. Une fille, c'est bien connu, c'est plus courageux qu'un garçon. Et aussi bizarre que cela paraisse, celle pour qui je risquais ma vie chaque semaine semblait prendre un véritable plaisir à risquer la sienne. Quand je la voyais galoper dans le vent avec ses accroche-cœurs, il me semblait voir la fille la plus belle du monde. Elle était divine. Et tous les samedis, j'étais aux premières loges gratifié de cette vision extatique. Bien sûr, je voyais approcher les fins de semaine avec un mélange d'excitation et d'anxiété. Mais pour la voir, elle, j'étais prêt à tout. Et puis je savais que si je m'en sortais vivant, il y aurait la récompense, le repos du guerrier, un verre de sirop grenadine à l'auberge du manège qu'on allait boire tous ensemble avec Monsieur Tourronde en attendant nos parents. Et puis un samedi, après la leçon, elle est partie sans rien dire. Mais, et le sirop? On comprendra que je me sentais grugé. Tu viens pas avec nous? Pas aujourd'hui. Je dois rentrer à Saint-Symphorin. Elle avait une petite mine. Bien sûr, j'ai insisté. Allez, quoi, juste un verre. Pas aujourd'hui. On prépare l'enterrement de Gilles.
Le qui?
Le Gilles.
Le Gilles. Mais Gilles comment?
Elle a hurlé. Mais Gilles, tu ne connais pas Gilles? Je n'ai plus rien osé dire. En étouffant un sanglot, elle a ajouté « Le plus grand chanteur de Saint-Symphorin ». Et puis elle a filé, le visage en pleurs. Le fait que je ne connaisse pas Gilles l'avait ému aux larmes. Jamais je n'aurais osé lui avouer que je ne connaissais pas non plus les autres chanteurs de Saint-Symphorin. C'était la première fois qu'on me reprochait mon ignorance. Et le fait qu'il s'agisse de ma divine ajoutait au désastre. J'en ai d'abord conçu un sentiment de honte qui s'est rapidement changé en culpabilité, et ce sentiment devait longtemps nourrir mon complexe d'infériorité. Une voix intérieure me disait « Tu veux plaire aux filles? Alors faudra savoir plein de choses. » Ce jour-là, j'ai compris que le chemin de la séduction devait croiser celui de la connaissance. Fort de ce constat, je suis allé boire mon verre de grenadine et j'ai analysé la situation. Ça s'annonçait plutôt mal. Selon toute vraisemblance, j'avais perdu des points. Et comme la belle était rancunière, j'allais devoir jouer finot pour ne pas être définitivement éliminé. Je me suis dit que le mieux, c'était de communiquer. Il fallait donc parler la même langue et j'étais bien résolu d'apprendre la sienne. Alors, j'ai demandé à Monsieur Tourronde, « Vous savez, vous, qui c'est, Gilles ?» Comme c'était un homme avisé, il m'a répondu, « Gilles, c'est le père de Lavenoge. » Les grandes personnes sont comme ça. Elles donnent toujours des explications qui n'en sont pas. Hormis le fait que je savais désormais que Gilles avait une fille, je n'étais pas beaucoup plus avancé. Certes, j'aurais pu commencer un arbre généalogique, un arbuste tout au plus, du fait de la maigreur des informations. Mais il y avait mieux. Ce qui me paraissait étrange dans cette famille, c'était que les gens n'avaient que des prénoms. Gilles, Lavenoge. Il devait y en avoir d'autres, mais pour l'instant, c'étaient les deux seuls que je connaissais. Et puis, d'errance en égarement, j'ai pris conscience du malheur qui frappait la pauvre Lavenoge, puisqu'elle se retrouvait orpheline, et que c'était peut-être pour ça qu'elle avait pleuré, ma divine.
Ça devait être une bonne copine, la Venoge.
Ce jour-là également, j'ai pris conscience que c'était la première fois que je voyais la mort de si près. Certes, je savais qu'elle existait, mais pour moi, c'était quelque chose d'assez diffus, de désincarné, comme Dieu ou le Père Noël. Il faut dire que les morts dans ma famille étaient morts depuis toujours, et que les vivants étaient bien vivants. Et tous mes amis étaient logés à la même enseigne. Il n'y avait que la fille en pleurs qui faisait figure d'exception. Elle a été témoin du passage, entrant de plein pied dans cet autre monde, ce qui faisait d'elle une sorte d'aventurière. Elle n'en devenait que plus extraordinaire. Et moi, qui ne connaissais pas Gilles, j'avais l'impression de devenir de plus en plus insignifiant. Il était temps de réagir. Le lundi suivant, à l'école, le maître a demandé si quelqu'un connaissait la Venoge. J'ai tout de suite levé la main. « C'est la fille de Gilles !» C'était une bonne introduction. Alors le maître a déroulé la carte du canton et s'est lancé dans de longues explications. Avec sa baguette, il a longé le cours de la Venoge, mêlant le poème qu'il connaissait par cœur au flot de son discours. Par la suite, il nous a distribué le texte qu'on a lu tous ensemble. Quelle expérience ! Ce jour-là, j'ai pris conscience que les textes pouvaient être écrits par de vraies personnes et qu'ils n'étaient pas que dans les livres. J'étais fier, le samedi suivant, d'annoncer à ma belle Amazone que je connaissais la Venoge et que c'était un fleuve qui se jetait dans les bras du bleu Léman. Elle m'a regardé avec dédain. Puis elle a fait un geste agacé comme si elle voulait chasser une mouche et elle est partie avec un soupir. J'ai compris ce jour-là que je ne connaîtrais jamais ses faveurs. En revanche, je connaîtrais la Venoge. Quelle consolation pour un garçon de 10 ans. Bien sûr, je ne savais pas alors qu'on se verrait si souvent, car en effet, depuis ce jour, la Venoge ne m'a plus quitté. Elle se retrouvait partout sur mon chemin, ou plutôt, c'était moi qui m'obstinais à fréquenter son cours. En histoire, quand on étudiait les Gaulois, il y avait ce nom étrange d'Allobroge qui refaisait surface. Et c'était l'occasion de faire un tour du côté de la Venoge par la Sarra et Saint-Sulpice. En géographie, quand on dressait la carte des rivières, on faisait un crochet par Orbe et par Olten. Par la suite, on a même appris qu'il y avait 2 Allemagnes, que le Rhin filait aux Pays-Bas et que le Colorado était un fleuve aux États-Unis. On a appris beaucoup de choses avec la Venoge, tout le programme de l'année dans ce seul poème. Gilles aurait fait un bon maître d'école, c'est évident. Il aurait même pu enseigner la musique parce que dans le livre de chant, je l'ai découvert par la suite, il y avait une chanson qu'il avait écrite. Quoi qu'il en soit, la Venoge, c'était bien plus qu'un poème, c'était une véritable eau de vie. Et puis un beau matin, la Venoge est sortie de son lit, elle a étendu ses bras dans le vaste monde et je l'ai retrouvée à la radio, à la télévision, dans les pintes, et plus tard dans la bouche de mon beau-père. Elle est devenue incontournable, omniprésente, mais ce n'était qu'un symptôme, la pointe de l'iceberg. Parce qu'il y avait d'autres poèmes, des chansons et une foule de textes qui naviguaient de conserve avec la Venoge. Quand je découvrais les chansons de Gilles, je me disais parfois que ça ressemble à Brel ou à Brassens, sans me rendre compte que je ne faisais que remonter à la source, cette source que la Venoge n'avait pas tarie et qui s'était imposée peu à peu comme une évidence. Parce que Gilles, c'était la source de beaucoup de choses, c'était souvent même la source des premières fois. C'est comme s'il avait toujours été là, heureusement d'ailleurs, car lorsqu'on a voulu nous apprendre à faire la guerre, j'étais drôlement content de le voir à l'entrée de la caserne à côté du sergent recruteur. Il nous attendait, l'air réjoui, et nous soufflait nos répliques pour qu'on puisse tenir tête à l'homme au galon. Gilles fait partie de ces gens qui semblent nous suivre toute une vie. On dit parfois que ce sont des anges, des escortes, peu importe. Gilles, c'est ma venoge, mes dents du midi, de ceux dont on sait qu'ils seront là au matin, à qui l'on ne dit pas adieu, mais à demain. Et puis un jour, sans crier gare, on nous a dit que la venoge avait 50 ans. C'était ridicule, parce qu'elle aussi avait toujours été là. Seulement, on ne le savait pas. On ne faisait peut-être pas attention. Ou alors, on faisait semblant. Elle allait à son rythme. Elle suivait son cours, tranquille, pas bien décidée, en filigrane parfois, comme tant de refrains qu'on entendrait portés par le vent. Ce même vent qui, il n'y a pas si longtemps, portait une belle amazone sur un cheval blanc. Une fille magnifique aux beaux yeux d'azur, à qui je repense encore souvent. Une fille sans cœur, mais sans qui, peut-être, je serais passé à côté de la Venoge et de tous ses affluents. Et comme, gravé dans la pierre, je garderai le souvenir de son visage, à jamais associé à la Venoge, qui, n'en déplaise aux cartographes, n'est pas du tout née au pied du Jura, mais dans un manège, tout au bord du monde, le jour où Gilles nous a quittés. Patrick Moser.